Enfant, écoute, tu as dit « Souviens-toi de sanctifier les fêtes », mais non seulement pour toi, mais pour ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, mais jusque pour les bêtes de somme, il est dit de ne pas travailler le jour du sabbat. Eh bien, dis-moi, si une poule pond un œuf, ou si une brebis a son agneau le jour du sabbat, sera-t-il permis d'utiliser le fruit de ses entrailles, ou bien faudra-t-il le considérer comme une chose abominable ? Je sais que beaucoup de rabbins, le dernier, Siamé, est toujours vivant, affirme que l'œuf pondu le jour du sabbat n'a pas respecté le précepte. Mais je pense que autre est l'homme, autre est l'animal, ou qui accomplit un acte animal comme l'enfantement. Si j'oblige une bête de somme à travailler, je me charge de son péché, parce que je m'emploie à la faire travailler sous la menace du fouet. Mais si une poule pond l'œuf mûri dans son ovaire, ou si une brebis met bas le jour du sabbat, parce que le moment est venu que son agneau voit le jour, non, cette action n'est pas un péché, ni en soi, ni aux yeux de Dieu. Ni l'œuf et l'agneau qui arrivent le jour du sabbat ne sont entachés d'un péché. Pourquoi donc, si tout travail accompli durant le sabbat est un péché ? Parce que la conception et la génération correspondent à la volonté de Dieu et sont réglées par des lois qu'il a données à toute créature. Or, la poule ne fait qu'obéir à cette loi qui prévoit qu'après un certain nombre d'heures de formation, l'œuf est complet et prêt pour la ponte. La brebis aussi ne fait qu'obéir à cette loi imposée par celui qui a tout fait. Le Créateur a réglé que deux fois l'an, quand vient le sourire du printemps sur les prés fleuris, et quand les arbres perdent leurs feuilles, que le froid serre la poitrine de l'homme, les brebis obéissent à leur instinct pour donner ensuite, dans l'autre période, lait, viande et fromage nourrissant pour les mois les plus fatigants à cause des moissons ou les plus désolés à cause des gelées. Si donc une brebis donne le jour à un agneau quand l'heure est venue, son petit, on peut bien le regarder comme sacré, même pour l'autel, parce qu'il est le fruit de l'obéissance au Créateur. Pour moi, j'arrête l'examen. Sa sagesse étonnante surpasse celle des adultes. Non, il a dit aussi qu'il était capable de comprendre également les symboles. Écoutons-le. Qu'il dise d'abord un psaume, les bénédictions, les prières. Les préceptes aussi. Oui, dis les midrashiot. Jésus énonce imperturbablement une litanie de ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Si nous devions subir encore toutes ces restrictions, frondeurs que nous sommes, je vous assure qu'il n'y aurait plus personne de sauvé. Ça suffit. Ouvre le rouleau au ruban vert. Jésus ouvre et se met à lire. Plus loin, encore plus loin. Jésus obéit. Suffit. Lis et explique s'il te semble qu'il y ait un symbole. Dans la parole sainte, c'est rarement qu'elle manque, et c'est nous qui ne savons pas le découvrir et en faire l'application. Je lis 4e livre des Rois, chapitre 22, verset 10. Le scribe Shaphan, continuant de s'adresser au roi, dit « Le souverain prêtre Helcias m'a donné un livre. » Shaphan, l'ayant lu en présence du roi, après avoir entendu les paroles de la loi du Seigneur, déchira ses vêtements, puis il donna. « Passe les noms !» Cet ordre. « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, en ce qui concerne ce livre qu'on a découvert. En effet, la grande colère de Dieu s'est allumée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre de façon à en suivre les prescriptions. C'est assez. Le fait s'est produit plusieurs siècles avant nous. Quel symbole trouves-tu dans un fait de chronique ancienne ? Je trouve qu'il ne faut pas circonscrire dans un temps ce qui est éternel. Éternel est Dieu, et notre âme éternels les rapports entre Dieu et l'âme. Ce qui avait provoqué alors les châtiments, c'est la même chose qui les provoque maintenant, et les effets de la faute sont les mêmes. Qu'est-ce à dire ? Israël ne connaît plus la sagesse qui vient de Dieu. C'est à lui, non à de pauvres humains, qu'il faut demander la lumière, et il n'y a pas de lumière sans justice et fidélité à Dieu. Alors, on pêche, et Dieu, dans sa colère, punit. Nous n'avons plus la science, mais que dis-tu, enfant ? Et les 613 préceptes ? Il y a des préceptes, mais ce ne sont que des mots. Nous les connaissons, mais nous ne les mettons pas en pratique. Donc, nous ne les connaissons pas. Le symbole est celui-ci. Tout homme, en tout temps, a besoin de consulter le Seigneur pour connaître sa volonté et y adhérer pour ne pas s'attirer sa colère. L'enfant est parfait. Même le piège de la question insidieuse n'a pas troublé sa réponse. Qu'on le conduise à la vraie synagogue. Il passe dans une pièce plus vaste et plus décorée. Ici, première chose, on lui raccourcit les cheveux. Joseph en recueille les boucles. Puis, on ceint son vêtement rouge avec une longue ceinture qui fait plusieurs fois le tour de la taille. On lui attache des banderoles au front, au bras et à son manteau. On les fixe avec des sortes de broches. Puis, on chante des psaumes et Joseph, dans une longue prière, loue le Seigneur et appelle sur le Fils toutes les bénédictions. La cérémonie est finie. Jésus sort avec Joseph. Il retourne à l'endroit d'où ils étaient venus. Réunion des hommes de la famille. On achète et offre un agneau, puis, avec la victime égorgée, on rejoint les femmes. Marie baise son Jésus. On dirait qu'il y a des années qu'elle ne l'a vu. Elle le regarde maintenant qu'il a l'habit et les cheveux d'un homme. Elle le caresse. Ils sortent, c'est la fin.